Et voilà, donc après ce morceau de musique, la suite de la chronique de Joël et Mickaël. Donc on est parti un peu d'un résumé, d'une présentation de ce qu'on considère être la culture chrétienne. Et là, on est un peu en train de creuser, entre
C'est
guillemets,
ça,
le cas
on a
d'Anne
parlé
Rice.
d'Anne Rice, en fait, qui est une auteure américaine qui a un peu subi
Cette
les foudres
culture.
d'une certaine partie, certaines branches du christianisme qui lui ont reproché pas mal de choses par rapport à une trilogie sur la vie de Jésus qu'elle avait l'intention d'écrire. Donc, entre autres, une des choses, c'était qu'elle avait utilisé les évangiles apocryphes. Ça a fait l'objet de...
Beaucoup de critiques.
Oui, mais surtout de notre petite chronique d'avant, la question juste avant la pause. Et maintenant, en fait, je voulais aller un peu plus loin sur l'idée que, justement, on lui avait aussi reproché, encore bien au-delà d'avoir utilisé les apocryphes, d'avoir extrapolé sur la vie de Jésus. Et en cela, en extrapolant, prendre le risque de dire des choses fausses. C'est-à-dire de se tromper. On véhicule beaucoup l'idée que la Bible est parfaite, donc qu'on ne peut rien, ni rien retrancher, rien rajouter, et donc rien extrapoler non plus. Ça pourrait être quand même dangereux. Oui, non? Qu'est-ce que t'en
Ouais.
penses, Mickaël?
Oui, et écoute, extrapoler, ajouter, retrancher la Bible, je me pose la question, je me dis, mais de quelle Bible tu parles exactement quand tu dis la Bible est parfaite, on peut
Oh,
rien
mais tu
ajouter?
sais, tu sais de quelle Bible je parle. Il n'y a pas 10 000 Bibles.
Bah si, justement. Non, non, ce que je c'est pas une question piège,
Non,
c'est-à-dire
non,
que en
ouais,
fait
non, mais
chaque
là je schématise
ouais.
complètement dans un. Justement, dans ce dont j'ai parlé dans l'introduction, donc d'une sous-culture chrétienne qui ne considère que sa propre Bible pour laquelle il n'y a que. Donc. Là, on parle vraiment
Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais ce
of
que j'essaie de dire, c'est
the...
que pour déconstruire ce type
Tout à fait.
d'argument, il faut reprendre à la base. Quand des gens ont cette confiance aveugle dans un livre, comme si effectivement on ne peut rien ajouter, rien retrancher, il est parfait, il faut simplement leur rappeler gentiment hein, que historiquement, ce livre, en fait, c'est un choix arbitraire de certaines personnes
On en a bien parlé juste tout à l'heure.
de rassembler des livres en disant voilà, on va prendre tel et tel livre, on va les mettre dedans, et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas deux églises sur cette planète. Quand je parle d'église, je parle avec un E majuscule, hein, les
C'est ça.
catholiques, les orthodoxes, les protestants, les anglicans, etc. Chaque église dans le monde a une Bible qui est différente. On s'en rend pas compte parce que c'est vrai qu'on est en Occident et qu'en Occident, la France est un pays majoritairement catholique. En général, bon, sinon c'est des protestants, bon, les anglicans il n'y en a pratiquement pas, les orthodoxes encore moins. Donc souvent les gens ils ont cette idée qu'il n'y a qu'une seule Bible, mais en réalité, si on va voir du côté des Grecs orthodoxes, si on va voir du côté des églises syriaques, on parle beaucoup de la Syrie en ce moment, si on va voir en Égypte, si on va voir, on va se rendre compte en fait qu'il n'y a pas les mêmes livres. Donc en fait, ce côté de dire attention, ça c'est la vérité, le reste c'est complètement faux. En fait, il y a un côté un peu absurde de dire, mais comment on le sait finalement que c'est ces livres-là et pas d'autres et qu'on ne peut pas en ajouter un livre ou retrancher un livre, dans la mesure où précisément, ce sont des communautés humaines qui se sont dotées de ces écrits en disant, nous, on leur accorde une certaine autorité. Et en fait, il y a déjà un côté profondément humain de dire, c'est un choix. Nous, on choisit de lire ces livres-là. Et d'ailleurs, tout le monde ne fait pas forcément ce choix. C'est-à-dire que l'Église catholique romaine a tranché la question au XVIe siècle. Elle a dit, voilà, pour nous, ce sont ces livres-là. Mais il y a beaucoup d'églises où, justement, il n'y a pas ce canon. On n'a pas pris de décision pour dire, bah, écoutez, voilà, ce sont ces livres-là et pas d'autres. À vrai dire, il y a une minorité d'églises dans le monde qui se sont dotées d'un canon. L'Éthiopie a un canon qui a plus de 80 livres. Il y a plein de livres dans la Bible éthiopienne qui ne sont pas dans les autres Bibles. Donc ça pose la question du statut
Les
accordé à ces
fameux
livres.
apocryphes dont on a parlé,
Bah,
enfin,
qui
c'est
sont
ça.
considérés
Du
comme
coup,
apocryphes par
qui,
d'autres.
ouais.
Je parlais tout à l'heure d'Athanase d'Alexandrie qui rejetait d'autres évangiles. Le même Athanase rejette fermement le livre d'Énoch en disant mais n'importe quoi, le livre d'Énoch, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Mais sauf que précisément, au sud de l'Égypte, en Éthiopie, on a le livre d'Énoch, on le lit et on le garde dans la Bible. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'Église d'Éthiopie a un canon, elle en a même deux en fait, mais dans chacun des deux canons, il y a le livre d'Énoch. Donc, ce qui est canonique pour les uns est apocryphe pour les autres. C'est très relatif.
Mais il me semble même que le livre de Jude fait référence au livre d'Enoch.
Ah, mais il le cite.
Il le cite. Hein,
Jude, dans le Nouveau Testament, alors c'est, il cite, va dire, voilà, ainsi a prophétisé Enoch le septième depuis Adam. Alors il le cite comme il citerait Jérémie, Ézéchiel, Isaïe.
Ça,
fait, oui. Donc il reconnaît l'autorité du livre d'Enoch. Mais cette autorité, elle n'est pas reconnue par tout le monde. Alors moi, ça ne me pose pas de problème que certaines communautés disent, bah nous, on aime bien ce livre, on le lit, celui-là, on ne l'aime pas trop, celui-là, on ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que justement, durant les premiers siècles de notre ère, au 3e, 4e siècle, on dit ce livre-là, il est bien, peut-être pas en lecture publique, mais pour lecture privée, pour une exhortation, parce que ça donne à réfléchir, ça donne à méditer. Il est intéressant ce livre. Et on va peut-être distinguer ceux sur lesquels on peut bâtir une doctrine. D'ailleurs, c'est ce qu'ont dit les protestants au 16e siècle en Belgique, à Anvers, peut-être pas à La Rochelle. Hein. Il y a deux confessions au 16e siècle, la confession de La Rochelle, mais aussi la confession d'Anvers. Donc, amitié à tous nos amis protestants belges. Eh bien, ils disent, les apocryphes sont bien. Alors, quand il parle des apocryphes, il parle en fait des deutérocanoniques de l'Église catholique, c'est-à-dire ouais. Ceux qui sont dans la Bible catholique, mais pas dont eux ne reconnaissent pas l'autorité, qui ne sont pas dans la Bible hébraïque. Ils vont dire, oui, ils sont bien ces livres, mais on ne peut pas établir une doctrine sur la base d'un seul de ces livres. Si on trouve quelque chose, une doctrine qui est enseignée dans un de ces livres, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit attesté dans d'autres livres. Et ça rejoint la question de l'extrapolation, de la spéculation. Finalement, quand j'écris un évangile apocryphe ou quand j'écris un roman de la vie de Jésus, que je m'appelle Anne Rice, que je n'ai pas de prétention à être scientifique ou théologienne ou dire je vous révèle la vérité absolue sur Jésus, mais où simplement j'essaie de raconter quelque chose pour intéresser les lecteurs et les amener à réfléchir, est-ce que cette littérature, il faut la brûler? Est-ce qu'il faut les condamner aux flammes de l'enfer ceux qui disent ce genre de choses? Ou est-ce qu'on peut comprendre avec intelligence que ces gens-là cherchent avant tout à faire avancer, à faire réfléchir, à amener le dialogue?
Mais c'est là où je trouve que c'est presque flippant tout ce que tu nous expliques. C'est qu'on a déjà, pas forcément conscience qu'il y a plusieurs Bibles. Et tu disais qu'on choisit notre Bible, mais en fait, pas vraiment. Enfin, au niveau des instances, mais nous, elle nous a un peu imposé parce qu'on ne nous parle pas des autres. Et quand justement il y a ce procès qui est fait à Anne Rice, ça pose même la question de est-ce qu'on veut juste empêcher les gens de réfléchir?
Oui, oui.
Parce qu'au final, c'est, profondément, c'est ça. C'est que si on parle de quelque chose qu'on ne peut pas dire dans la Bible, c'est écrit que, et du coup c'est ça la vérité, ça ouvre un gouffre pour certains.
Oui, mais on retombe dans la définition d'apocryphe que je disais au début, où les gens ont cette idée, attention, on nous cache des choses. Et en fait, ça alimente ce côté, la théorie du complot, les autorités ecclésiastiques empêchent de dire quoi que ce soit, parce que peut-être on révélerait la vérité absolue. Enfin, alors qu'en fait, ils ne comprennent pas que l'enjeu, il n'est pas là. Que Anne Rice, elle n'a pas eu la prétention, enfin, j'en sais rien, mais d'après ce que tu as dit, elle n'a pas la prétention de dire j'ai une révélation divine et tout ce que je vous dis, c'est
parole d'évangile. Avant, j'ai utilisé le mot marketer qui n'était pas forcément le bon, mais il y a quand même eu des communications de presse pour présenter sa trilogie, etc., où elle disait « je fais cela pour rendre gloire à Dieu ». Donc voilà, je pense que... Et en plus, je pense que vu son lectorat habituel de romans gothiques, etc., je pense qu'elle ne s'attendait pas à vendre autant d'exemplaires de ce qu'elle avait vendu des chroniques... des vampires, puisque de toute façon, c'était complètement, finalement, aller contre son lectorat habituel. Donc, marketingement, commercialement, faire des livres comme ça, pour elle, quelque part, ça n'avait aucun sens. Je pense qu'elle l'a vraiment fait parce qu'elle avait vraiment le désir de mieux comprendre la personnalité de Jésus et vraiment, enfin oui, c'est ça, de lui rendre gloire, que les gens entendent parler de lui aussi et le découvrent peut-être d'une façon différente.
Il faut peut-être aussi voir son parcours à elle. Elle s'est convertie en 2000. En 2005, elle était une toute jeune chrétienne. Il lui manquait peut-être encore un certain savoir, un certain enseignement. Donc, en final, elle s'est retrouvée où ? Elle a commencé à écrire sur l'enfance de Jésus. C'était un petit peu son enfance de chrétienne aussi. Donc...
Ça, je pense pas, parce qu'elle a, comme je l'ai dit dans ma chronique, elle a été enseignée depuis genre l'âge de 5 ans jusqu'à 18 ans dans une école très catholique. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Moi, j'ai lu son espèce de témoignage, biographie post-faste de Christ the Lord. Et en fait, tu vois que c'est quelqu'un qui, toute sa vie, même quand elle se déclarait athée, comme elle l'a dit, en fait, elle avait un cheminement. Elle a toujours continué à s'intéresser à Dieu. Elle a toujours continué à essayer de comprendre. C'est seulement au bout de très nombreuses années qu'elle a réussi finalement à vaincre beaucoup d'a priori. Et malheureusement, à cause de l'attitude de beaucoup de chrétiens qui l'ont énormément critiqué donc, sur le livre qu'elle avait écrit, elle n'a plus eu envie d'avoir affaire aux chrétiens, en ayant toujours envie finalement quand même de suivre Jésus. Mais voilà, je pense que c'est pas une histoire de connaissance ou de manque de connaissance. On l'a critiqué parce qu'elle ne rentrait pas dans le moule. Je veux dire, encore à peu près un mois, il y a une grosse polémique de plus. Je sais pas si vous suivez un petit peu les blogs, enfin la blogosphère de ce qui se passe au niveau chrétien avec différentes plateformes comme The Gospel Coalition ou Patios, enfin bon bref. Et il y a eu un gros article avec Tim Challis, qui est donc un des gros auteurs sur Gospel Coalition, qui disait, j'ai noté sa citation, il dit « La Bible nous prévient que nous ne pouvons pas faire mieux que la parole de Dieu et nous n'avons aucun droit de vouloir autre chose. » Bam. Et donc lui, c'était vraiment, dans cet article, il attaquait à la fois toutes les personnes qui osaient dire qu'elles avaient eu ne serait-ce qu'une infime révélation de la part du Saint-Esprit, que le mysticisme dans l'Église était un poison, que patati, patata, patata. Donc, c'est des gens... The Gospel Coalition, c'est énorme aux États-Unis. C'est un blog qui est suivi. Il y a tous des auteurs comme John Piper qui écrivent aussi là-dessus. Ça a une influence, mais énorme, sur ce que pensent les chrétiens aux États-Unis. Ça forme vraiment... les esprits de tout un tas d'évangéliques. Et ces gens-là, après, derrière, ils sont sur des gens comme Anne Rice. Parce qu'ils disent, on n'a pas le droit de toucher, il ne faut pas faire, extrapoler, c'est affreux. De toute façon, à partir du moment où tu dis quoi que ce soit, de toute façon, c'est faux. Donc, voilà. Et je pense que c'est ça qui lui a fait énormément de mal à elle et qui fait aussi beaucoup de mal à plein d'autres gens. Alors que finalement, on peut vraiment se demander... Parce qu'ils n'ont aucune unité intellectuelle. Je veux dire, ce dont on vient de parler, que par exemple tous les chrétiens n'avaient pas la même Bible, ce genre de choses. Je veux dire, c'est pas une histoire. Enfin, il n'y a rien à comprendre. Enfin, c'est juste des faits. Enfin,
oui, oui.
Voilà, c'est, quelque part, c'est scientifique. Mais et même ça, ils vont aller contre ça. Donc voilà, c'est un peu vraiment, genre, j'ai envie de dire, la sous-culture chrétienne... dans toute sa bêtise.
Bon, c'est une forme d'obscurantisme, hein, précisément. Parce que là, on est dans le cas de figure typique où on va interdire aux gens de s'exprimer, d'avoir une opinion qui peut être peut-être différente de ce que la majorité dit. Et puis, en plus de ça, on ne va pas non plus être honnête sur l'histoire, y compris de la Bible. Enfin, je regarde en France, la situation me paraît assez différente. La nouvelle édition de la traduction œcuménique de la Bible, la TOB, que beaucoup de gens utilisent, bah, précisément dans sa dernière édition, elle a ajouté 3 et 4 Esdras, 3 et 4 Maccabées, etc., en disant ce sont des livres qui sont lus par les chrétiens orthodoxes. Et donc, on les traduit en français, on les met dans la Bible, pas parce qu'on veut que les protestants ou les catholiques placent leur foi dans ces livres, mais parce qu'on trouve que c'est bien de savoir qu'il y a des Bibles différentes et qu'il y a une richesse dans ces livres et une ouverture. Ça, au lieu de tomber dans une forme d'obscurantisme ou d'étroitesse d'esprit, au contraire, on élargit l'horizon et on invite le croyant à s'épanouir, à grandir dans sa foi et à cheminer, d'avoir un cheminement qui lui est propre.
Merci. Je crois que c'est une bonne conclusion, non ?
Ouais, moi personnellement, ça me plaît bien.
Ça vous plaît ?
Ouais. Ouais. Merci en tout cas beaucoup à vous deux pour cette chronique. Merci d'avoir répondu à ces questions.
Avec grand plaisir.
De nous avoir ramené tes connaissances. Et en tout cas, c'était vraiment très intéressant. Et comme dit, il ne faut pas hésiter à aller voir ton site internet, michaellanglois.fr, si on veut en savoir plus. Bon ben, c'est le moment d'écouter à nouveau un petit peu de musique là pour cogiter tout ça.
Le moment de la pause.
Et donc après, on va continuer avec toi, Alain.
Tout à fait.
Et donc, tu vas nous parler du trône de l'évêque.
Tout à fait.
Qui n'est pas un fromage.
Ah ben tiens, ça aurait pu.
Ne pas confondre le trône de l'évêque et le pont l'évêque.
Et ne pas confondre avec le pont l'évêque. Ah ouais, tiens, c'est les bonnes, celles-là.
Bon ben, en tout cas, on vous laisse cogiter pendant la musique sur qu'est-ce que le trône de l'évêque. Et on se retrouve après pour avoir la réponse.